enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc nous sommes à notre troisième partie sur cet enseignement. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Alléluia. Je vous explique donc depuis le début de l'année que nous avons en tout 12 bénédictions à conquérir. 12 bénédictions qui sont pour nous les 12 portes de la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Amen. Je veux que vous compreniez une chose, c'est que la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. J'ai expliqué la dernière fois dans un enseignement ici, je dis, la soif de l'homme, la véritable soif de l'homme, c'est la gloire de Dieu. Amen. Mais la gloire de Dieu dont nous parlons, en fait, est un synonyme. C'est le royaume de Dieu. Jésus a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Et Jésus dit ceci, c'est que depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je dis, on force des portes. Amen. Donc la Bible dit que on peut s'emparer du royaume de Dieu et que le royaume de Dieu a des portes. Qu'est-ce que encore le Seigneur dit? Quand le Seigneur dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Dieu explique que c'est sur la terre que vous construisez votre royaume de Dieu. Comprenez-moi bien. Sur la terre, quand vous appliquez les principes du royaume dans votre vie, vous ouvrez les portes, vos 12 portes dans le ciel. Vous me suivez? J'ai longuement expliqué ici qu'il y a 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse chapitre 21. Jésus a dit ceci, amassez-vous des trésors, n'est-ce pas? Là où la teigne, la roue ne peut pas détruire. Pour dire quoi? Que un homme en posant des actions ici-bas, ça masse des trésors ou diminue son trésor dans le ciel qu'il va hériter. Alléluia. Et Jésus a dit, le règne de Dieu est parmi vous. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que j'appelle les clés du royaume. Les clés du royaume de Dieu. Jésus a dit à Pierre, il dit, je te donne les clés du royaume, pas la clé. Vous suivez? Il dit, tu es Pierre, si tu es Pierre, je bâtirai mon église. Il dit, je te donne les clés. Donc, le royaume de Dieu n'a pas une clé. C'est pas parce que vous... Le fait de croire en Jésus vous sauve. Mais le royaume de Dieu, c'est une vie. C'est une façon d'être. Suivez-moi bien. Amen. Ce n'est pas un lieu. Le royaume de Dieu, c'est pas un lieu. Jésus pouvait dire dans un passage que j'ai pas noté, il dit, le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie. Quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous avez la vraie joie. Je vous avais expliqué la dernière fois que quand vous n'avez pas vraiment le royaume, vous ne connaissez pas le royaume de Dieu, vous n'avez pas la paix. Ou bien vous avez des paix sporadiques. Vous obtenez le mariage, mais vous avez la soif, par exemple, des enfants. Vous obtenez les enfants, vous avez la soif de quelque chose d'autre. Donc, un homme qui cherche le royaume a constamment soif en lui. Il a la soif de connaître le royaume de Dieu. Amen. Et c'est cela qui l'amène à chercher à ouvrir les portes. Je dis donc, il y a 12 portes, il y a 12 clés. Et nous sommes en train d'étudier ces clés. On a déjà étudié 2. Nous sommes sur la troisième. La troisième porte du royaume de Dieu dit, lorsque tu l'ouvres, tu sors totalement de l'esprit de la disette, de la misère, de la pauvreté, toi et plusieurs générations. Amen. Donc sur la terre ici, pourquoi tu auras la joie? Quand la Bible dit le royaume de Dieu, c'est la joie. Tu vas avoir de la joie, parce que tu peux pas être joyeux, n'est-ce pas? Même si tu as un boulot, tu rends grâce à Dieu, mais tu n'as pas de salaire, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas être joyeux, même si tu as un salaire, mais que tu es endetté et tout ton argent, pas, c'est les créanciers. Tu n'as pas la joie. Même si à l'église tu viens, tu loues le Seigneur, tu chantes pour sa présence, tu glorifies le nom de Dieu, tu n'as pas de joie. Amen. Jésus a dit, afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu veut faire en sorte que la joie de tout un chacun soit parfaite. Ce n'est pas simplement le paradis. Mais déjà sur la terre, il faut que votre joie soit parfaite. Il faut que chaque aspect de votre vie soit comblé. Et vous avez 12 clés à ouvrir. À manifester, pardon, 12 clés dont vous avez besoin pour ouvrir les portes, pour bénéficier, pour être joyeux, pour connaître la paix globale qu'est capable de vous donner le Seigneur Dieu puissant. Et nous avons donc étudié les choses pour ouvrir la troisième porte. J'ai dit d'abord, quels sont les éléments qui nous empêchent de sortir de la disette? On les a cités, je ne vais pas les citer. Et après ça, j'ai commencé à citer, quels sont maintenant les éléments qui nous amènent à ouvrir la porte et entrer dans notre bénédiction. Amen. Ce qui nous empêche d'ouvrir la porte, ce sont les 8 attitudes que j'ai citées. C'est ce que j'appelle les géants. Amen. Le géant bloque chaque porte a un géant devant qui bloque la porte. Et les huit attitudes qui sont citées sont les huit attitudes qui reflètent le géant. Et j'ai parlé donc des attitudes par lesquelles nous allons sortir de la disette. Et nous nous sommes appuyés sur la parole de Dieu pour lire tous les versets où Dieu recommande une action, recommande un acte à poser. Il dit, si tu poses tel acte, voilà ce que je fais. Si tu poses tel acte, voilà ce que je fais. Et donc, j'ai répertorié dans la parole de Dieu tous les actes, ou bien toutes les actions que devaient poser les enfants de Dieu pour sortir de la disette. Il dit, si tu fais comme ça, tu ne connaîtras pas la disette. Et j'en ai conclu que ces actes-là sont en fait les clés, n'est-ce pas, qui amènent un enfant de Dieu à ne plus jamais connaître le manque et la disette. Alléluia. La première chose que nous avons citée, parmi ces clés-là, c'est la justice de Dieu. David dit dans le livre de Psaume, le Psaume 37, qu'il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Et la postérité, il n'a jamais vu le juste abandonner et sa postérité mendiant son pain. Et j'ai démontré ici que la justice dont parle le Seigneur, cette justice-là, lorsque vous l'avez, lorsque vous la manifestez, vous n'allez jamais mendier votre pain. Vous n'allez jamais demander aux gens qui mendient. Vraiment, frère, aide-moi, je ne peux pas manger aujourd'hui, j'ai des problèmes pour payer mon eau, mon électricité. Quand cette porte-là s'ouvre, vous ne connaîtrez jamais ça. Vous n'allez jamais plus jamais appeler un parent pour qu'il vienne vous aider à payer votre facture d'eau et d'électricité. Ça sera terminé. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la crise que connaîtrait un pays, vous ne connaîtrez pas cela. Et cette porte-là s'ouvre parce que vous avez la justice de Dieu. La justice de Dieu, j'expliquais que ce n'est pas la justice comme nous la concevons. Notre justice chez nous les hommes, c'est cette justice-là qui vient des œuvres. C'est-à-dire parce qu'un homme se comporte correctement, on dit qu'il est juste. Dieu dit non. Que si Dieu veut regarder les gens qui se comportent correctement, aucune personne ne sera nommée comme juste. Dieu a décrété que ce qu'il appelle juste, la justice, c'est celle qui vient de la foi. Donc, la foi vous rend juste et c'est la foi donc qui va faire en sorte que vous ne connaîtrez jamais le manque. Alléluia. Mais quelle foi? Quelle foi qui va nous rendre juste? Quelle foi va faire que nous allons sortir du manque? Alléluia. Quelle foi? Et je me suis basé donc sur Matthieu chapitre 7 verset 7 pour dire, voilà ce que dit le Seigneur. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on va vous ouvrir. Et effectivement, la parole de Dieu dans tout son nom présente différentes facettes de la foi. Dieu dit que par exemple, la persévérance aussi est une foi. Amen. Il parle de cette femme-là qui partait devant le juge parce qu'elle a persévéré pour avoir ce qu'elle demandait. Jésus dit d'elle qu'elle avait la foi. On lira tout à l'heure d'autres passages. Alléluia. Donc la foi a trois aspects. Quand on parle de la foi, c'est pas simplement le fait de vous asseoir, de croire que ce que vous avez demandé va arriver. Ça, c'est la première foi. C'est ce que j'appelle la foi du demander. Il dit, si vous demandez quelque chose, que vous croyez que cela va arriver, vous le verrez s'accomplir. Mais il y a une autre foi qui vient de la seconde action de Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7 dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on va vous ouvrir. Alléluia. La deuxième chose, il dit, cherchez, vous trouverez. Ça dit quelque chose de beaucoup plus compliqué. Amen. Donc, je résume. La première foi qui vous rend juste et qui fait que vous n'allez jamais manquer de quelque chose, c'est quand vous avez cette confiance en Dieu, que tout ce que vous demandez au Seigneur va vous le donner. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir une bonne attitude. Mais je vous dis que le bon comportement ne vous exauce pas. Le bon comportement ne vous fera pas sortir de la disette. Vous comprenez, non? C'est pas parce que tu ne mens pas, tu ne triches pas, que la pauvreté ne frappera pas à ta porte. Parce que tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu ne mens pas, à cause de la foi que tu as en Dieu, tu vas aller au ciel. Mais tu ne vas pas hériter des promesses de Dieu sur la terre. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui se contentent de leur attitude chrétienne et qui croient que à cause de cela, ils vont voir la gloire de Dieu se manifester, ils vont trouver le mariage. La personne dit, bon, par exemple, moi je suis, ça fait, depuis des années, je suis chaste. À cause de toi, je ne connais pas d'homme. Croyant que c'est cette attitude-là qui va faire que tu vas lui donner le mari. C'est pas vrai. Vous me comprenez, non? C'est pas vrai. Ce n'est pas la chasteté qui donne le mariage. C'est la foi dans la promesse. Amen. Alléluia. Il y a un qui va dire, Seigneur, je travaillais, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, et puis je ne trouve jamais de boulot pendant que je suis quelqu'un d'intègre. C'est pas l'intégrité là qui te donne du travail. C'est autre chose qu'on appelle la foi. Amen. L'intégrité est une bonne chose, ça va te faire entrer au ciel. Mais ça ne va pas te donner le royaume de Dieu, ça ne va pas te donner la joie complète sur la terre. Il ne faut pas la mépriser, parce que ceux qui commettent des péchés n'hériteront même pas le royaume de Dieu. Alléluia. Ils sont déjà disqualifiés. Mais quand tu n'en commets plus, ça ne veut pas dire que ça va venir autant. Il faut poser un autre acte. Parce que si Dieu veut regarder tes œuvres pour te récompenser, en fait, tu n'auras rien. Parce que tu n'es pas parfait. Or, Dieu recherche la perfection. Donc, Dieu a décrété qu'il faut la foi. Il faut croire. La foi, c'est de faire quoi? La foi, la Bible dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui s'attend à Dieu. Lorsqu'il prie, il croit que Dieu va lui répondre. Amen. Il s'attend à Dieu. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui s'appuie sur Dieu. Qui ne met pas sa confiance dans les hommes. La Bible dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en un homme. Vous ne pouvez pas déposer la foi si dans votre cœur intérieurement, vous pensez que vous avez un oncle et que c'est votre oncle-là qui va vous faire sortir de votre situation. Ces gens-là, vous, Dieu leur demande de se passer. Ils attendent leur bénédiction de la part des individus. De sorte que lorsqu'un homme, leur patron ou quelqu'un d'autre ne les paye pas, ne manifeste pas, ils deviennent aigris. Croyant que leur bénédiction dépend des gens qui doivent les payer. Ce n'est pas vrai. Votre bénédiction dépend de Dieu. Quand vous avez la foi, quand même vous allez travailler pour une personne, même s'il ne vous a pas payé, Dieu vous donnera ailleurs. Et s'il ne veut pas même, Dieu va le contraindre à vous payer. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ça peut aller? La foi décante les situations. La foi ouvre les portes de Dieu. La foi vous donne ce que Dieu vous a promis. Si vous n'avez pas la foi, vous n'obtiendrez aucune promesse. Vous allez être à l'église et vous allez finir par être aigri. Parce que vous allez dire que vous avez une bonne attitude et des gens sont bénis avec, devant vous. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous dites, mais moi je veux la chasteté. Et vous allez même quelquefois voir. Tu as une soeur qui attend le mariage. L'autre soeur qui est à côté de toi. Frère, écoutez-moi bien. Je ne dis pas ça pour dire de péché. La soeur, elle est tombée, elle s'est relevée, elle tombe, elle se relève. Et puis elle rentre dans ses promesses. Toi qui as droit, tu tardes. Mais quelquefois, il arrive que la personne même qui chute et qui se relève a plus de foi que toi. Alléluia. Pas parce que la chute est quelque chose, mais elle croit en Dieu. Elle a la foi. Et toi, tu vas dire, c'est vrai que ce qu'elle reçoit peut être la bénédiction diabolique, que j'appelle la bénédiction de l'armée des cieux. Vous comprenez, non? Mais il y a des gens, ce n'est pas le diable. C'est Dieu même qui intervient dans leur vie parce qu'il croit. Pourquoi David a obtenu plus de choses que Saül? David et puis Saül sont les deux premiers rois d'Israël. Saül a péché, David a péché. Mais David a su se relever de ses chutes. David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Saül ne s'est jamais relevé de ses chutes. Saül n'avait pas la foi. La différence entre les deux, c'est qu'il n'avait pas la foi. David savait que c'est vrai qu'il a péché. Mais s'il s'humilie devant l'Éternel, Dieu va lui pardonner. Même le croire au pardon, là, c'est la foi. Il y en a qui ne croient pas que Dieu pardonne leur péché. C'est un manque de foi. Lorsque ces gens-là, par exemple, pêchent, ils vont se culpabiliser pendant de longues années. Quand même, j'ai vu des personnes qui, par accident, ont menti, mais qui n'arrivent jamais à se pardonner. Elles n'ont pas la foi. Parce qu'elles ne croient pas dans le pardon des péchés. Amen. On va dire, tu es dur avec toi-même. Mais c'est un manque. Bon, il faut être sévère avec soi. La Bible dit d'être rigoureux avec soi-même. Mais ça, quelquefois, la culpabilité est un manque de foi. Tu ne crois pas dans les promesses de Dieu. Mais la personne même qui affaiblit, qui dit j'ai vraiment péché contre l'Éternel, et qui s'appuie, et qui se souvient que Dieu est un Dieu de miséricorde, obtient les choses de Dieu. Pourquoi les hommes comme Abraham sont devenus extraordinaires? Parce qu'ils ont toujours cru en lui. Ils s'attendaient toujours à Dieu. Alléluia. Or la foi là, c'est pas quelque chose qui frappe aux yeux. La sanctification ça se voit. Quand tu vis droit, tout le monde peut te remarquer. Mais quand tu as la foi, on ne le sent pas. Alléluia. Parce que c'est une attitude dans le cœur. Et c'est pourquoi vous allez voir, vous allez avoir l'impression que Dieu fait de la discrimination. Il y a des gens qui sont dans l'église, c'est vrai, eux aussi vivent de la sanctification. Mais vous avez le même degré de vie, d'attitude, de comportement. Mais eux, ils sont plus bénis que vous. Parce qu'ils croient en Dieu d'une façon que vous ne faites pas. Ne croyez pas que, je vous ai dit, Dieu n'est pas une affaire de pitié. C'est une affaire de foi. Foi dans ce que vous demandez. Foi dans ce que vous attendez du Seigneur. Foi dans ce que vous recherchez. Vous savez que Dieu répond. Et tu sais que Dieu ne va pas t'abandonner. Tu le sais. Tu sais que quand on monte, qu'on descend, toi, tu vas avoir du travail, toi, tu vas avoir du boulot. Tu peux crier, alléluia. Tu peux crier par rapport à ton... J'ai vu généralement des gens qui paniquent même par rapport à leur mariage. Qui sont, pourquoi Dieu tarde? La réalité, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Parce que quand tu as la foi, tu paniques pas. Quand tu sais que même ça tarde, ça va arriver. Lorsque quelqu'un commence à pleurer, à se lamenter, à vouloir rétrograder, la réalité, c'est qu'elle ne croit pas. Elle ne croit pas. Parce que si tu croyais, tu allais rester serein. Parce que Dieu n'est pas menteur. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La foi, c'est la main. La foi, c'est une main qui vous permet d'aller prendre la promesse de Dieu et l'amener à vous. La foi est une main. Alléluia. Dieu détient la bénédiction en lui. La foi va te faire prendre ça. Si tu n'as pas la foi, tu es manchot. Et puis tu es là, Dieu, Dieu, Dieu. Mais tu n'as pas de bras. Tu n'as pas de main. Tu n'obtiendras rien. Tu ne vas vivre que par grâce et par miséricorde. Quand Dieu a pitié de toi, il t'envoie quelque chose. Mais non, la vie n'est pas comme ça. Il y a deux fois, vous devez demander pour obtenir.
Mais des fois, vous devez chercher. Alléluia. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Après, il explique autre chose. Il dit, cherchez, vous trouverez. C'est un autre type de foi. C'est la foi du chercher. Ouvrons le Bible dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Est-ce que vous me suivez? Vraiment, je bénis le Seigneur. Parce que je vois cette faveur de Dieu dans ma vie. Je ne comprenais pas. Quelquefois, je vois des gens. Je dis pratiquement. Je sais qu'on peut passer par des moments d'épreuve. Je sais que même Dieu peut me prouver au point où tout ce qu'il a pu faire au travers de moi, il puisse me, tout reprendre. Mais même quand l'Éternel le fera, je prédis comme Job. Je continuerai à bénir son nom. Quand je ne suis pas attaché à ce qu'il a mis dans ma main, mais mon cœur est attaché à lui, à sa parole. Alléluia. Mais il y a des gens, ce n'est pas des épreuves. J'ai vu des frères avec lesquels on peut dire on a évolué ensemble. Mais la réalité, ils sont des bons chrétiens. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Et ils commencent à reconstater dans leur vie que Dieu commence à faire une distinction. Pourtant, on est tous de très bons frères. Mais Dieu commence à faire une distinction. On n'a pas forcément tous le même ministère. Moi, j'étais appelé être pasteur. Ces frères-là, peut-être, sont appelés à travailler dans une entreprise. D'autres sont appelés à faire ça. Mais même dans ce domaine, on sent que Dieu commence à faire une distinction. Parce que souvent, les gens n'ont pas la foi. J'ai vu des gens, même qui sont pasteurs, et qui, avec qui, vous pouvez commencer l'œuvre en même temps, qui vivent dans l'intégrité, qui s'éloignent du péché. Alléluia. Mais parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ne voient pas la faveur de Dieu. J'ai vu un jour un pasteur, qui est un homme de Dieu, que j'apprécie beaucoup. Il est passé me voir au bureau. Mais quand j'ai vu sa souffrance, j'ai dit, ah Dieu. Et quand je parlais, le Seigneur me dit, ce homme est mon serviteur. Je savais que c'était un prophète de Dieu. Mais, pendant que l'Esprit de Dieu parlait, je comprenais que la misère dans laquelle il vivait n'était pas une épreuve. C'est vrai que c'était une épreuve. Mais elle avait dépassé au moment le temps parce que, jusqu'à ce jour, il n'avait pas manifesté suffisamment la foi. La foi qui fait que tu ne connais plus la disette. Cette confiance-là en Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La foi vous fait, par exemple, il arrive, on n'a plus rien, il nous reste peut-être juste, bon, c'est pas pour dire que ça, la foi vous rend insouciant, hein. Mais je sais par exemple que pour l'équilibre de mon foyer, ouais, je dois par exemple faire sortir ma femme avec les enfants, je dois me priver quelquefois, quelquefois je vais la prendre, bon, viens, on va aller rester à l'hôtel un peu, tu vois, pour qu'elle se repose, pour parler avec elle. Et je pense que c'est important pour l'équilibre de mon foyer. Amen. Parce que j'ai tout le temps occupé avec les gens, en train de prier pour les gens. Et puis bon, tu n'as quelquefois pas le temps des enfants, tout ça. Les finances ne peuvent pas le faire. Mais je crois en lui. Il dit, chérie, on y va. Elle va parler, elle dit, non, mais tu sais, on n'a pas encore payé tel truc. J'ai dit, je sais que c'est ce que je dois faire. Ton bien-être. Dis, on va aller. Et on va avec le peu qu'on a. Alléluia. Alléluia. Mais le jour même que j'ai revenu, avant même que j'arrive à la maison, il y a des enveloppes même qui vont m'attendre. Et les gens, et plus chaque fois que vous parlez comme ça, les gens vont dire non, c'est parce que tu connais beaucoup de monde qui est à l'église. Parlez à mon épouse. Ça a commencé même pendant qu'on n'avait même pas de fidèles à la maison. On n'avait pas de fidèles à l'église. Et personne ne pouvait donner. Un jour, par exemple, je voulais faire une retraite. Je me suis préparé tout ça. Quand j'ai pris mon truc pour sortir de la maison, il y a un frère qui m'appelle. Il dit, va passer me voir. Il arrive, il n'est même pas de l'église. Je l'ai rencontré une seule fois. Il dit, Dieu lui a mis à cœur. Il est venu me donner 100 000 francs. Il a payé mon séjour à l'hôtel. Parce que j'avais trouvé qu'il fallait que je sois équilibré, que je puisse me retirer et que je puisse prier Dieu. Je me suis levé par la foi. Et je suis parti en chemin. Il a pourvu. La dernière fois, j'ai voyagé avec mon épouse. Alléluia. Vous allez peut-être dire que c'est une discrimination. Non. Moi, j'ai voyagé avec ma femme. Je voulais lui offrir ce voyage. Je suis parti en Guadeloupe. J'étais invité en séminaire. On va payer mon billet d'avion. Amen. Mais j'avais envie que ma femme vienne. Ben, c'est un joli pays. Vous arrivez au bord de la mer. Donc la première fois que j'étais parti en Guadeloupe, ben, vraiment j'étais trop seul. C'était bien, tu prêches. Mais l'endroit est joli, tu vois les hôtels, la mer. Donc quand tu es couché là, tu penses à ta femme. Tu veux que ta femme soit là. Donc on m'invite encore une deuxième fois. Il dit, chérie, on va partir. Elle dit, ah, on regarde le prix du billet là. Il faut payer Abidjan, Paris, Paris, Guadeloupe. Et quand tu vois le prix du béton, il dit, mais chérie, on s'en va. On s'en va. Parce que j'estime que c'est important. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai la foi. Et je crois en ces choses. Alléluia. Et là, quand j'ai dit ça, je n'ai pas fini de parler. Elle m'a dit, appelle, réserve le billet, deux billets. Le gars, il réserve les billets. Il a fini de réserver les billets. Il nous a dit le prix, tout ça, il va me donner le prix. Il dit, ok, gloire à Dieu. Dieu se pourvoira. J'ai pas fini de parler. Non, je vous assure, c'est vrai. Hein. Il y a un frère qui est venu qui est dans mon bureau qui a tapé la porte. Kaka. Il lui a dit, pasteur, j'ai fait un jeu. Il était dans un endroit, il a joué. Et puis il a gagné un billet d'avion. Il dit, mais Dieu lui a dit de venir m'offrir le billet là. Quand il finit de parler, je regarde et puis je souris. Il dit, Dieu, vraiment, ton affaire est. Et puis, quand il part, j'appelle la secrétaire. Il dit, ton affaire, l'affaire est réglée. Hein? Je n'ai pas l'argent du billet. L'argent est arrivé tout de suite. À peine tu es parti réservé. Parce que j'estime que ma femme soit heureuse, c'est très important pour moi. Amen. Vous savez, si vous avez des problèmes chez vous à la maison, que la femme est malheureuse, c'est des trucs. Vous-même, ça joue sur votre ministère. Mais je n'ai pas l'argent. C'est vrai. On va pas vivre. Bon, c'est vrai. Elle n'est pas dépensière. C'est pas l'argent qu'elle recherche. Mais j'estime que elle a besoin. Voilà. Et ça là, Dieu va payer. Dieu va payer. Mais pour aller prendre le billet, il faut la foi. Si vous restez là pour dire, hey, Dieu, quel jour tu vas m'offrir ça? Dieu ne va pas le faire. Dieu n'a pas pitié. Dieu n'a pas pitié. Restez là. Dis, hey, quel jour moi aussi Dieu m'a offert un voyage? Frère, il faut rester là. Tu ne vas jamais amener ta femme quelque part. Mais Dieu ne veut pas ça. Si vous n'avez pas la foi, vous ne sortirez pas de la disette. Vous ne sortirez pas du manque. Vous attendez d'avoir beaucoup pour pouvoir agir. Mais Dieu, vous allez rester toujours à la limite. Toujours à la limite. La foi vous fait oser. La Bible dit que Abraham a eu la foi. La foi, il est parti à l'aventure sans savoir où il partait. Quelqu'un qui va, qui réserve le billet d'avion sans même avoir l'argent du billet. Si ce n'est pas la foi. Parce que c'est normal. Alléluia. Toutes les campagnes qu'on vous a montrées là. Lorsqu'on a commencé, on n'avait rien. Mais c'est parce que je tente d'obéir à la voix de Dieu. Que Dieu a pourvu tous les jours à ma maison. Alléluia. Il m'a dit, va. Je vais obéir par la foi. Celui qui n'a pas la foi va commencer à dire, on peut bâtir comment? On n'a pas l'argent. On est une petite cellule. On fait le budget, ça fait 7 millions, 6 millions. Tu vas réfléchir jusqu'à... Dieu ne te donne plus l'argent. Tu fais en direct, tu peux trouver l'argent. Il y a quoi? C'est toi qui as créé l'argent? Amen. Ça ne veut pas dire que quand vous priez, Dieu peut vous parler. Mais c'est la foi qui vous fait sortir de la disette. La foi. La foi vous rend juste. Et quand c'est comme ça, quand vous obéissez à Dieu par la foi, Dieu vous déclare juste. C'est pas compliqué. Il dit, tu es juste. Tu dis, mais je n'ai rien fait. On dit, je dis, tu es juste. Ah. Tu dis, mais Seigneur, il dit, mon juste va vivre. C'est une vie. C'est quoi la vie? Mon manger à la maison, c'est la foi. Mes déplacements, c'est la foi. Pourquoi vous voulez vivre? Par vos salaires. Mon juste ne vivra pas avec son salaire. Mon juste vivra par la foi. Pas par son salaire. Tu n'as pas la... Ah! Alléluia! Toi, tu veux vivre par ton salaire. Mais tu ne peux pas vivre par ton salaire trop petit. Tu ne peux pas vivre avec ça. Tu peux vivre avec ton salaire. Est-ce que tu peux vivre avec ton salaire? Non, tu n'es pas en train de vivre. En tout cas, tu subis la vie. La vie te vit. Tu constates la vie. Tous les jours, tu es là et puis tu subis. Les événements viennent contre toi. Et tu gères le quotidien. Dieu dit non. Les enfants doivent avoir la vie. Et la vie en abondance. Maintenant tu dis, mais Seigneur, la vie en abondance vient comment? Tu crois que tu vas te donner beaucoup de milliards? Il dit non, mon fils. Je n'ai jamais dit que mon juste vivra par les millions. Mon juste, il va vivre par la foi. Alléluia. Alors tu commences à vivre. Et tu vis. Mais tu n'as pas de compte en banque. Oh, tu es en train de vivre. Et Dieu fait tout ça pendant que je n'ai rien dans la banque. Et quelquefois, ma femme me dit, mais tu, il faut épargner. C'est vrai, il faut épargner, frère. Mais j'ai dit, quand, vous savez, ma femme, elle a la foi. Hein. Dit, quand on voit quelque chose, même si on a pu, quand je vais en voyage, quand tu prêches, les gens te bénissent. Et puis quand j'arrive, je dis, tout l'argent, on n'a qu'à prendre pour investir encore dans le royaume de Dieu. Et tout ça, là, c'est la foi. Parce que je suis en train de réfléchir, mais de mettre tes enfants dans quelle école ils iront? Oh, il y avait des années de cela, je vous assure. Même pas l'argent, même pour payer l'école des enfants. Même chaque année, même payer l'école des enfants, c'est la foi. Ouais. Et puis j'aime ça, moi-même j'aime ça même. Je suis né dedans, je vis dedans. C'est, j'aime ça. C'est trop intéressant, frère. C'est-à-dire, tu es là, là moi, j'aime les événements. C'est-à-dire que les factures arrivent, et puis moi-même je souris. On dit ça là même. C'est-à-dire que c'est pas de l'insouciance. Je me repose sur papa. C'est-à-dire, je dors. Je dors en lui. Alléluia. C'est-à-dire, je ne compte pas. J'ai travaillé. Je suis géomètre de formation. Il fait Yamsokro, l'NSTP. Je travaillais dans un cabinet d'expertise immobilière. Mon salaire n'était pas suffisant pour que je vive. Mon salaire était suffisant pour me faire survivre. Ton salaire te fait survivre. Dieu veut que tu vives. Arrête de survivre. Tu survis. Le salaire, un salaire fait survivre. La foi fait vivre. Moi, je vis, frère, je vis. Je n'ai pas l'argent à la banque. Je ne suis pas multimillionnaire. Mais on était dans l'hôtel. Dans l'hôtel où on était là. Quand les frères nous ont logés, un bon hôtel de la Guadeloupe, hein. Là-bas, tu vois les stars parisiennes là, qui arrivent, eux-mêmes sont dans le même hôtel que nous. Donc, on se trouve au restaurant. Dit, hein? La Bible dit, alléluia. La Bible dit, vous savez, mon juste vivra par la foi. Quand tu as confiance en Dieu, tu manges avec les grands. Tu manges avec le roi. Sans te rendre compte. Eux tous sont là-bas, eux tous sont des gros comptes en banque. Mais toi, tu as Dieu. Et tu es assis là. Alléluia. Tu as Dieu. Amen. Oui, la foi. Frère, la foi. Je n'ai pas connu beaucoup de choses, mais le peu que j'ai vu avec la foi m'a conduit sur la table des chefs d'État. Je me suis assis, hey, les chefs d'État pour manger. Tous ceux qui sont sur la table, ils sont des multimillionnaires. Mais nous, c'est la foi qui nous a amenés ici. La foi. Et puis, on est normal, et puis on parle. Oui, monsieur le président. Ok. D'accord. Mais voilà ce que nous recevons du Seigneur. Voilà, voilà. La foi. Juste la foi. Beaucoup de gens vont regarder, ils vont comme ça expliquer. Oh, tu sais, c'est parce que ses parents sont ceci, ses parents sont cela. C'est de l'incrédulité. Tu ne connais pas Dieu. Dieu fait vivre ses enfants. Ouvre la troisième porte, tu vas commencer à vivre. Tu ne vas plus survivre, tu vivras. Et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Quand tu survis, tu veux raconter quoi? Tu n'as plus de témoignage. Tu n'as même pas un témoignage. Je ne peux pas dire que ouais, tu survis. Tu survis. Oh, mes amis. Frère, je ne dis pas ça pour montrer ce que l'Éternel est en train de faire. Mais c'est pas pour montrer ce que Dieu fait. Mais je vous en supplie. Tout à l'heure, j'étais dans la salle en train de me préparer dans la prière. Et je priais, je pleurais Dieu. Parce que je veux que vous entrez dans votre destinée. Je veux que vous sortiez. J'ai dit, ah Seigneur. Je t'en supplie, change la vie des gens. Je t'en supplie, regarde, les gens, ils ne savent pas comment manger. Ils ne savent pas comment dormir. Explique-leur. Fais-leur comprendre. Je te demande. Ah. Ça me fait mal quand je vois un frère qui arrive à la fin. Il ne peut pas payer son loyer. Ça me fait mal. Mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon, vous apportez ce que j'ai. Qui est la foi. Voilà ce que les apôtres ont dit lorsqu'ils ont trouvé le paralytique. Vous connaissez le passage? Les apôtres sont arrivés au temple. Il y avait un monsieur qui était devant, qui était paralysé, qui n'arrivait pas à marcher. Ils arrivent vers lui. Ils le regardent. Il dit, mon ami, nous n'avons ni or ni argent. Ça, c'était pas trop la réalité. Pierre et Jean étaient les archibishops d'une église qu'ils avaient gagnée à la Pentecôte, qui avait au moins 3000 personnes. La Bible dit dans cette église-là, il n'y avait pas d'indigents. Je suis convaincu qu'ils auraient pu prendre une offrande et puis venir donner à ce monsieur qui était là devant la porte. Ils lui ont dit cette phrase. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Dieu ne vous donne pas l'argent. Dieu guérit l'infirmité qui vous empêche d'avoir l'argent. Gloire à Dieu. Non. Ils ne lui ont pas donné de l'argent. Ils n'avaient pas besoin d'argent. Ils avaient besoin de marcher. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Là, tu pourras travailler. Là, tu ne vas plus être mendiant. Là, tu ne vas plus aspirer à les gens. Là, tu seras béni. Ils avaient de l'argent. Ils disent, ce n'est pas l'argent que tu as besoin, mon frère. Tu as besoin de marcher. Et ça, là, nous avons. Frère, je ne peux pas te donner de l'argent, mais je peux te communiquer la foi que Dieu a mis en moi, afin que tu vives, que tu ne connaisses jamais la disette. Et que tes enfants soient bénis sur 1000 générations. C'est tout ce que je peux t'apprendre. Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas payer ton loyer. Je ne peux pas, j'aurais voulu le faire. Mais je n'ai pas ça. Mais j'ai la foi qui me fait vivre. C'est ce que je veux qu'il vienne en toi. Prends-la. Reçois-la aujourd'hui. Aie la foi. Aie la foi. Crois en ton Dieu. Attends-toi à lui. Il agira. Oh, Hébreux chapitre 11 dit, regardez, ce sont les gens qui ont... Et vous voyez, cette foi-là, qui vous rend juste. elle ne vient que de la recherche de Dieu. Vous êtes convaincu, même quand ça ne va pas, que Dieu est vivant, qu'il va agir. Alléluia. Même vous le savez. Tu sais que tu vas te marier. Tu sais que tu ne connaîtras pas la vie. Tu le sais, tu le crois. Et les portes commencent à s'ouvrir devant toi. Il dit, mais il faut être violent. Parce que ce n'est pas une foi facile. Il dit, le royaume des cieux, on ne rentre pas comme ça. Il faut être violent. C'est-à-dire, il y a des moments où tu ne comprends rien. Il y a des moments où tu as l'impression que tout est contre la promesse. Tu demandes, tu n'as pas. Dieu dit, cherche. Parce que tout n'est pas demandé, l'on vous donnera. Il y a chercher aussi. Chercher là, c'est quelque chose qui est compliqué. Chercher, c'est quelque chose qui est difficile. Dieu dit, cherche. Ah, pendant les temps difficiles, j'ai passé mon temps à chercher Dieu. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, tous ceux dont il est marqué ici, qui sont devenus justes par leur foi, sont des chercheurs de Dieu. La foi qui rend juste, c'est vrai que j'ai dit, il faut demander pour recevoir, mais c'est plus fort que ça. La foi qui rend juste, en fait, c'est la deuxième étape. La foi qui vient du chercher, c'est celle-là qui rend les gens justes. Parce que tu peux avoir la foi ponctuellement, parce que tu as prié pour avoir 20 000 francs, tu vas les avoir. Ça, ce n'est pas suffisant pour être juste. Ça fait partie. Mais la foi qui fait que Dieu te justifie, où David peut dire, je n'ai jamais vu le juste abandonné. C'est de ça qu'il est en train de parler. Il n'était pas en train de parler de ceux qui venaient à l'église. Il n'était pas en train de parler de ceux qui partaient dans la synagogue. Il dit, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et sa postérité mendiant son pain. Il ne parlait pas de tous les chrétiens. Il parlait de ceux qui avaient la foi. C'est d'eux qu'il est en train de parler. Alléluia. Et vous voyez dans ce passage, il dit, pour l'avoir possédé. Or, la foi, je reprends, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Vous comprenez? Hébreux chapitre 11, verset 4. Il dit, Caïn, Abel a offert une offrande plus agréable à Dieu que celle de Caïn. Et le verset dit, c'est par elle, par la foi, qu'il fut déclaré juste. Pourquoi? Quelle est la différence entre Caïn et Abel? Abel cherchait Dieu. Abel a compris que il a compris l'offrande qu'il devait faire parce qu'il cherchait Dieu. Et quand Dieu lui a expliqué qu'il faut offrir ce que tu as de plus cher, la Bible dit, Abel a offert à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Donc tout ce qu'il avait gagné au début, il a fait ça en offrande. Il ne savait même pas trop comment son troupeau allait encore enfanter. S'il a sacrifié tous ses premiers-nés, il a senti ça par la foi. La Bible dit que Caïn, il a offert des fruits de la terre. On n'a pas précisé le qualificatif de premier fruit. Ça veut dire que ce n'était pas sa première récolte. C'est pour ça que Dieu n'a pas aimé son offrande. Parce que ce n'est pas une offrande qui est venue par la foi. Vous voulez que Dieu bénisse votre offrande? Laissez-vous conduire par Dieu dans ce que vous allez faire pour Dieu. Ne faites pas, ne faites pas d'offrande parce qu'on fait des offrandes. Abel a cherché Dieu. Cette foi-là de la recherche l'a mené à dire, dès que ces brebis ont mis bas, il dit, tout cela, je les sacrifie à l'Éternel. Moi-même, je ne vais pas manger. Sa femme devait lui dire, mais chérie, pense à demain. Il dit, je ne sens pas. Je crois que je dois commencer d'abord par l'Éternel. Je sens cela. Elle dit, mais comment on va vivre demain? C'était la foi. Quand il a fini de parler, la Bible dit, Abel a été déclaré juste. On n'a pas cité son comportement. On n'a pas dit que c'était une affaire de dire que Caïn ou Abel, il y a un qui était voleur, il y a un qui était menteur. Non. On a laissé les œuvres. On a regardé la foi des deux. On dit, toi, tu es juste. Alléluia. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut être un chercheur de Dieu. Vous connaissez ce chercheur? C'est-à-dire, tu connais les épreuves. Rien ne marche. Et puis, tu dis, je suis là. Les choses tombent. Tu dis, je suis là. Parce que ta parole est la vérité. Comme cette femme syrophénicienne dont je vous parlais. Les apôtres disent, on ne veut pas que tu sois guérie. Femme, va-t'en, on ne veut plus t'écouter. Elle dit, je suis là. Elle arrive vers Jésus. Je dis, je ne veux pas te voir. Elle dit, je suis là. Parce que tu as la solution à mon problème. Toi, beaucoup de problèmes t'ont attaqué. Tu abandonnes la main de Dieu. Dès que les gens viennent s'opposer à ta foi, tu veux retrograder. Tu n'es pas un chercheur de Dieu. Tu ne seras pas juste. Tu peux mendier ton pain encore. Il faut qu'avec Dieu, là, tu es là. les problèmes arrivent, les gens te parlent mal dans l'église, mais tu es là. Tu sais ce que tu cherches. Tu sais ce que tu cherches, frère. C'est ce qu'on appelle la foi. Cherchez et vous trouverez. La foi qui vient du chercher. Tu vas, tu travailles, tu peux signer des contrats avec les gens te trompent, te doublent. Dieu a dit que toi tu vas réussir. Donc, même si ça, tu le cherches encore, tu connaîtras des échecs, mais tu le cherches. Dieu dit, waouh, regardez ce gars-là. Tout le monde l'a escroqué. Il travaille, on le trompe. Il va travailler, on ne le paye pas. Et puis il continue de croire. Mais qu'est-ce qu'il a. Dieu m'a surpris. Comme la femme syrophénicienne. Et puis quand tu obtiens, il dit, fils, tu es juste. Quand Dieu a prononcé la phrase, c'est fini. Tu connais, non? C'est fini. Plus jamais Dieu va t'abandonner. Et tes descendants ne mendieront jamais leur pain. Attends seulement qu'on prononce la phrase. Mais ça va venir en le cherchant. La vie tombe sur toi, tu es là. Tu dis, si tu veux, vous me tuez, mais je suis là. Je vais te chercher. Tout s'oppose à toi, mais tu le cherches. Ah, Dieu. Est-ce qu'on peut avoir des chercheurs de Dieu ici? Pourquoi tu le cherches? Parce que tu t'attends à lui. Parce que tu sais qu'il y a de l'espoir. Même quand tout te dit qu'il n'y en a pas. Même quand Jésus dit à cette femme, je dis que je ne te bénis pas. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Elle dit, mais Dieu fait des miracles, non? Elle dit, les petits chiens, ils mangent les miettes. Là, Jésus était découragé. Il dit, vraiment, vraiment, Dieu, je sais que tu n'as pas prévu la bénédiction de cette femme. Mais là, amen. La femme a eu sa délivrance. La délivrance de sa fille parce qu'elle a cru. Et je vous assure que cette femme a été déclarée juste. On n'a pas écrit, mais moi je sais. Vous allez la trouver au paradis. Quand vous allez aller, on dit voici la syrophénicienne. C'est elle qui était là. Peut-être avant même elle était prostituée. Hein? La Bible dit quand vous continuez le passage, il y avait une femme, elle était prostituée, elle s'appelait Rahab. Elle était prostituée. Quand elle a vu les espions de Josué arriver, elle les a regardés. Elle a cru parce qu'elle cherchait Dieu. Quand elle a fini, la Bible dit, elle était juste. Vous allez trouver Rahab au paradis. Une prostituée qui a cru en Dieu, qui a cherché Dieu et qui a compris que la promesse était pour les enfants d'Israël. Pour comprendre cela, il faut le chercher. Regardez pourquoi la femme syrophénicienne, je dis qu'elle cherchait Dieu. Quand elle a vu David, elle n'était pas juive. Elle a dit Jésus, fils de David. Elle connaissait sa généalogie. Elle connaissait que l'héritage venait des juifs, que le royaume venait des juifs. Et elle savait qu'il était le fils de David. Qui lui a appris ça? Si ce n'est pas une recherche. Elle vit dans un autre pays. Est-ce qu'elle est partie étudier un livre pour voir la généalogie de Jésus? Jésus n'était pas encore un héros national pour qu'on le marque dans les généalogies. Comment elle savait qu'il était le fils de David? Nous, on sait que nous, ça nous dirait de savoir que Jésus est le fils de David. Mettez-vous à cette époque-là. Quand vous voyez quelqu'un, vous savez qui est son papa? Jésus était connu, mec. Comment on peut savoir qu'il était fils de David? Elle dit, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Elle avait la révélation. Mais d'où vient la révélation? De la recherche. Chercher. Chercher. Oh, il y en a qui ne veulent pas chercher, ils sont paresseux. Alléluia. Et c'est par la foi, par exemple, qu'Abraham est parti dans un lieu sans savoir où il allait. Ah, il a cherché. Alléluia. La foi qui cherche. Et puis vous avez la foi qui frappe. C'est ce que Jacob a manifesté. Dieu tarde à le bénir. Il cherche. Un jour, il a rencontré Dieu dans un carrefour. Jacob. Ils se sont battus. Il dit, bénis-moi. On dit, non. On dit, bénis-moi. L'ange dit, non. Il dit, bénis-moi. Ah. L'ange dit, non. L'ange dit, mais quand même, laisse-moi partir, s'il te plaît. Il dit, il n'y a pas moyen. Bénis-moi. Parce qu'un jour, il avait la promesse en lui. Il a pris. Il y a des gens qui ont arraché leur bénédiction. Vous comprenez ça? Et quand il finit ça, Dieu dit, c'est ce jour-là que Dieu a déclaré Jacob juste. Il dit, ton nom voleur, là, c'est terminé. Aujourd'hui, tu t'appelles Israël. Qu'est-ce qui a fait ça? La foi, pas les œuvres. Parce que Jacob se comportait mal. Son frère aîné, il a doublé son frère. C'était un escroc. Jacob n'est pas devenu un des pères de la foi par ses œuvres. Il est devenu un des pères par sa foi. Parce que lui, c'était un voleur. Son frère arrive, il dit, donne-moi ton droit de nez. Il était plus intelligent que son frère. Il a pris son intelligence pour doubler les gens. Il voulait doubler Laban. C'était un doubleur. Mais le jour où il a rencontré Dieu, il a changé de vie. Il a cru. Dieu l'a rendu juste. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Croyez. Quand Dieu te rend juste, c'est fini. Tu ne connais plus la pauvreté. Alléluia. Ah, acclame le Seigneur. Alléluia. La deuxième chose, après la justice qui va faire que vous allez sortir de la disette, mes amis, c'est le fait de donner aux pauvres. Amen. La deuxième chose qui va faire que vous sortirez de la disette, après la justice qui vient de la foi, c'est votre amour pour les gens. Et le fait que vous savez donner aux pauvres, aider les gens. Proverbe chapitre 28, verset 27 dit ceci. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. Proverbe 22, 9. L'homme dont le regard est bon sera béni parce qu'il donne de son pain à l'indigent. Deutéronome 15, 7. S'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'enduciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Deutéronome chapitre 15, verset 10. Fais-lui un don et que ton cœur ne lui donne pas à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Amen. Donc l'Éternel bénit votre libéralité envers ceux qui sont démunis. La libéralité, c'est vrai, c'est peut-être de donner de l'argent. Mais c'est pas toujours l'argent. C'est d'aider les gens à sortir de la disette. En partageant les choses que Dieu vous a données. Ça peut être la nourriture, ça peut être la foi. Moi, je partage dans la foi. Quand Dieu me donne aussi, j'en donne. C'est très important de vous souvenir des pauvres. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu 25. Titre 31. Dans ce passage-là, Jésus-Christ raconte le jugement dernier. Et il dit au jugement dernier que Dieu va séparer un groupe de personnes qu'on appelle les boucs d'avec un groupe de personnes qu'on appelle les brebis. Dieu va dire aux boucs, allez en enfer. Et Dieu va donner les raisons. Bizarrement, dans ce passage, Dieu ne dit pas, allez en enfer parce que vous n'avez pas cru en moi. Il dit, allez en enfer parce que j'étais pauvre, vous ne m'avez pas aidé. Allez en enfer parce que j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Allez en enfer parce que j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Allez en enfer parce que j'avais des problèmes, vous ne m'avez pas aidé. Allez en enfer à cause de cela. Les mauvais vont lui répondre, les méchants vont lui répondre. Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou en prison? En tout cas, à ma connaissance, frère, dans la Bible, j'ai pas vu Jésus en prison. Sauf la période où il a passé juste avant la crucifixion. Donc ces personnes-là étaient surprises, demandant à Dieu, mais quand avons-nous vu dans de telles difficultés et avons-nous refusé de t'aider? Car c'est évident que si on dit que Jésus-Christ est quelque part, nous tous on va l'aider, non? On n'a qu'à nous dire tout de suite, Jésus est en prison. Mais les gens me seraient étonnés de voir la prison. Tout le monde est devant là-bas. On veut Jésus, on veut Jésus. Alléluia. Il dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Est-ce que si on voit Jésus nu dans la ville, même pas Jésus, même moi, votre pasteur, si vous voyez, même, pasteur, non. Il dit, j'avais pas l'endroit où dormir. Vous ne m'avez pas reçu. Les mauvais ont dit, mais ah, toi aussi Dieu. Jésus, toi, on va te voir dans les problèmes. Et puis on va t'aider. Il va le répondre. Quand vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ah Dieu. Vous voulez sortir de la disette? Aidez les gens qui n'en ont pas. Vous savez, être chrétien. Ici, la Jésus ne dit pas aller en enfer parce que vous n'avez pas cru en Jésus. Je pense que ces gens qui étaient là avaient cru en Jésus. Mais leur vie ne produisait aucun fruit. On ne voyait pas les œuvres. Les œuvres pour aider les autres. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et rester entre quatre murs sans aider les gens. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et nous promener dans la vie avec des bibles. Alléluia, amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, alléluia, amen. Non! Mais vous me direz sûrement, non, pas ça, c'est parce que nous n'avons pas les moyens. La Bible déclare, la bonne volonté se voit en fonction de ce qu'on a, non de ce qu'on n'a pas. Nous, on avait la parole. On avait la parole. Les gens au nord n'ont reçu aucun évangile. Avec le peu qu'on a, nous sommes partis dans ces endroits-là pour aller parler de Dieu. Et Dieu a encore béni. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas de chaussures, vous ne l'aidez pas. Vous avez un problème avec Dieu. Il dit, donne aux pauvres. Et toi, tu ne connaîtras pas la disette. Aidez les gens. Vous êtes assortis de la disette. Ne soyez pas méchants. C'est pourquoi il dit dans cette église, vase d'honneur. On va agir. On n'est pas là pour... D'abord, on agit déjà. Est-ce qu'on n'agit pas? Tous les programmes qu'on fait là, on agit. Mais on n'a pas encore fini. Ce n'est que le début. Ah oui, moi j'ai une vision extraordinaire. J'ai une vision. Et je sais que parmi vous, il y a des gens... Vous avez un pasteur. Tu as un berger. C'est-à-dire ta vision et moi le but de mon cœur.
c'est d'amener chacun de vous à entrer dans sa destinée. Ça me tient à cœur comme pas possible. J'ai trop envie que vous vous réalisez. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment, je pleure tout le temps pour ça. Ça me fait mal quand un chrétien est privé de la grâce de Dieu. J'ai trop envie, vraiment. C'est pourquoi je dois vous expliquer toutes ces choses-là. Parce qu'il faut que vous réussissiez. Il faut que vous entrez dans votre destinée, frère. Dans la vie, tu ne dois pas rester sur le carreau. Je ne veux même pas qu'une personne soit perdue. Ou bien qu'une personne ne peut pas profiter de toutes les grâces du royaume de Dieu. Ça, ça me fait souffrir. Alléluia. 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 Et nous devons le faire. Je vois, j'ai vu des choses. Je voyais qu'à un moment donné, est-ce que ça ne t'adorera pas? Je croyais chaque dimanche, mais d'autres fois par la semaine. C'était simple. On offrait les repas à tous ceux qui ne pouvaient pas manger gratuitement. Les gens venaient comme un restaurant ouvert pour rien. Et puis ils pouvaient manger, juste se restaurer. Et on profitait de cet endroit-là pour leur donner des leçons d'éducation, comment ils pouvaient réussir dans la vie, comment ils pouvaient sortir de la disette. J'ai vu dans mes visions que nous avons une chaîne de télé dans laquelle on prêchait non seulement l'évangile, mais on apprenait aux gens les conseils de Dieu pour que leur vie puisse changer. J'ai vu que nous avions construit un hôpital. Amen. Oui. Où est l'hôpital là? Mais quand tu arrives, notre alliance avec Dieu, c'est qu'on ne meurt pas dans cet hôpital. Amen. On prie pour les malades, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les gens sont guéris. J'ai vu cet hôpital là. J'ai vu des frères qui étaient là, des gens qui étaient médecins et qui étaient en train d'aider. Je nous ai vus, même au CHU, avant même qu'on ne construise l'hôpital, faire en sorte qu'il n'y ait aucune personne qui arrive, aucun indigent, et que parce qu'il n'a pas l'argent pour payer les premiers soins, il va mourir. J'ai vu que nous, on était au CHU. Je nous ai vus au CHU. Être là, avec des équipes, face d'honneur, et qui étaient là, lorsque quelqu'un arrive et n'avait pas, on pouvait l'aider pour qu'il puisse être soigné. Je nous ai vus, c'est pas seulement rentrer pour aller prier pour les malades dans les hôpitaux, mais rapporter une solution à leurs besoins. Je nous ai vus faire ça. Amen. Je nous ai vus aider les pauvres, aller dans les quartiers où les gens n'avaient rien. Ah, je vous ai dit, j'avais une grande vision. Je nous ai vus même reconstruire carrément des quartiers. Aller prendre des quartiers, tout balayer, et puis construire des maisons dures pour eux. Même s'ils ne voulaient pas donner leur vie à Jésus. Je nous ai vus faire du bien à la population. Et vous savez, je ne crois pas que personnellement je vais réaliser toutes ces choses. Mais je sais que cette vision, en fait moi je suis le berger, vous comprenez? Et toutes les choses tu les sens en toi, parce qu'il y a des gens, c'est leur appel. Dieu va les bénir pour qu'ils fassent ça. S'ils ne réalisent pas ça, ils ne seront jamais épanouis. Leur vie c'est ça. Ils sont nés pour que des gens puissent changer. Ils sont nés pour que ceux qui n'avaient pas d'espoir aient de l'espoir. Ils sont une réponse de Dieu. Et vous êtes là assis, avec tout ce talent en vous. Vous savez quelque chose? Je sais que vous n'avez pas l'argent pour le réaliser, mais je vous parle de la foi. Je vous parle de la foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. En fait, c'est pourquoi je vous ai montré ce film. Et j'ai commencé à vous expliquer qu'on peut partir de rien. La Bible dit que le royaume de Dieu, même il est comme ça. Il dit le royaume de Dieu, il est comme une graine de sénévé. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'elle grandit, elle devient un grand arbre. Tous les oiseaux du ciel viennent s'asseoir. Quand on commençait, on n'avait rien. 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 Mais on a cru en lui. Nous n'avons pas encore atteint le but. Quand je vous explique toute la vision que nous avons. Mais nous sommes en chemin. Je t'assure mon frère, tu vas y arriver. Tu peux y arriver. Dieu va passer par toi. Arrête de te laisser dans les petites histoires pour t'aigrir avec les gens, les petits palabres inutiles qui ne servent à rien, t'aller te battre. Pourquoi? Pour une place. Non, tu n'es pas fait pour être un fonctionnaire avec 700 000 francs, même 600 000 francs par mois. C'est insuffisant pour ta vision, ton petit salaire. Tu comprends? Même si tu gagnes 3 millions, c'est insuffisant pour ta vision. Tu es un grand. Tu n'es pas n'importe qui. En toi, Dieu a déposé beaucoup de choses. Crois en lui. Crois. Écoute la parole de Dieu et la foi. Tu vas aller très loin. Très loin. Si tu crois. Ne te sous-estime pas, parce que ce n'est pas toi-même qui t'as appelé. Toi, tu ne peux pas faire grand-chose, mais lui qui t'a choisi va faire de grandes choses en toi. Commence avec le peu que tu as. Commence à aider le pauvre. Commence à aider l'indigent. Commençons déjà à faire ce que nous pouvons. Commençons avec le peu que nous avons. Jésus a dit à ses disciples, nourrissons toute la foule. Les disciples ont dit, mais Seigneur, comment? Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Il leur a donné une leçon. Dieu est le Dieu de miracles. Amenez simplement ce que vous avez. Arrêtez de regarder ce que vous n'avez pas, mais regardez ce qu'il vous a donné. Arrêtez de regarder ce que vous n'avez pas encore pu faire. Regardez ce que vous avez pu faire déjà. Commencez par le tout petit. Dieu va multiplier.
Il y avait 5 pains et 2 poissons. Il y avait une foule de plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je sais que la vision dont je parle est grande. Quel argent aurons-nous pour déblayer les maisons et puis construire des maisons dures pour les gens? Où on va trouver cet argent? Ce sont des milliards. Quel argent aurons-nous pour bâtir un hôpital grand où tout le monde pourra venir avoir des soins presque gratuits, prier pour les gens? Où aurons-nous cet argent? Je ne sais pas comment. Mais le peu que nous avons, allons déjà à l'hôpital. Le peu que nous avons, allons visiter déjà les prisons. Allons leur parler de Dieu. N'attendons pas d'avoir énormément. Le Dieu qui a commencé avec nous quand nous n'avons rien pour nous amener à faire des croisades de grande envergure, il n'a pas changé. Il va se saisir de toi avec tes premiers dons, tes premières offrandes, tes premières capacités. Et c'est ce que Dieu prendra. Amène tes 5 pains, tes 2 poissons. Tu vas nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tu vas les nourrir. Toi, Dieu va passer par toi pour nourrir des gens. Dieu passera par toi. Tu es un roi. Tu dois entrer dans ton règne. Mais crois en lui. Attends-toi à lui. Et tu verras sa gloire. Alléluia. Alléluia. Il y a encore un autre troisième élément. Je termine avec ceci. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a 4 sources dans votre vie que vous devez activer. 4 sources. Permettez d'exposer la première partie de l'exposé et m'arrêter à cause du temps. Et nous allons continuer là-dessus le dimanche prochain. Jean chapitre 7, verset 38 dit ceci. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui a la foi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Dieu dit, si quelqu'un croit en lui, des fleuves d'eau vive sortiront de lui. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Psaume 84, 5 ou bien 6 dans certaines versions. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Quand tu t'appuies sur Dieu, Dieu trace les chemins pour toi dans ton cœur, frère. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Verset 7. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. La Bible dit, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, quand ils vont dans les endroits où il y a le malheur, ils apportent la joie. C'est ce que vous êtes. Et à vos honneurs, c'est ce que nous serons. Nous avons une vision. Nous partons quelque part. Nous ne sommes pas là pour nous arrêter en quatre murs. Nous sommes là pour que le visage de cette nation change. Et ça va changer. Amen. Pas pour aller faire de la politique. Moi, c'est pas qu'on soit député ou pas. Il y en a peut-être qui sont appelés à le faire. Que Dieu vous bénisse. Mais je veux montrer à la population et je veux que vous le sachiez que ce n'est pas en prenant des postes politiques qu'on a le pouvoir. On a le pouvoir parce qu'on sert les autres. Parce qu'on aide les gens. La Bible dit le plus grand, c'est celui qui sert tous les autres. Ce n'est pas celui qui dit votez-moi. Je suis bishop. Je suis ceci. Je suis cela. Non. C'est celui qui est là quelque part dans l'hôpital et qui aide les gens. Lui, il est grand. Et lui, Dieu lui ouvre les portes. Et c'est ce que nous serons. Nous ne cherchons pas les grands postes. Nous n'aspirons pas à ce qui est élevé. Nous aspirons juste à être des serviteurs. Servir les gens. Aider les gens à avoir une autre vision de la vie. Leur donner de l'espoir quand il n'y en a plus. Dieu vous remplit de sa parole pour que vous soyez motivés, forts, que vous gardez la foi et que vous partez terrasser l'ennemi sur votre chemin. Tu es un vainqueur. Ne te laisse pas le diable t'arrêter. Dieu va te donner une source de bénédiction qui va se multiplier en quatre. Dieu va la pourvoir. Dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 9 à 14, quand Dieu va te donner cette source, il va équilibrer tout ce qui peut être aspect financier dans ta vie. Ne te trompe pas. Quand Dieu va mettre une source dans ta vie, attends-toi à ce qu'elle se développe en quatre situations que j'appelle les quatre fleuves de l'Éden. Genèse 2, 9 à 14, il dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On nous trouve aussi du délire, mais de la pierre et d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Idekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Amen. Je vais juste exposer d'abord ceci, puis je vais m'arrêter. Il dit, le premier fleuve s'appelle Pishon. Le mot Pishon, en hébreu, veut dire augmentation. Alléluia. Et il dit que ce fleuve-là entoure tout le pays de Havila. Un pays où il y a l'or, le pays de du trésor. Le deuxième fleuve, donc le premier fleuve de votre vie, s'appelle augmentation ou bien croissance. Et ce fleuve-là entoure tout le pays de votre vie, tout le pays de votre trésor. La Bible dit, là où sera
Ton cœur sera là où sera ton trésor. Il y a quelque chose qui est un trésor dans votre vie. Amen. Ce premier fleuve s'appelle augmentation. J'en ai déjà parlé plus ou moins dans ce message pour montrer comment Dieu va vous bénir. La première source de votre vie va aller de manière croissante, va s'augmenter. Et cette source-là est liée au trésor qui est dans votre cœur, aux choses qui ont de la valeur pour vous. Permettez de donner un peu les choses un peu en vrac et puis m'expliquer le dimanche prochain. Ok? La Bible dit que le royaume de Dieu est comme une graine de sénévé. Elle est la plus petite. Mais elle grandit. C'est ça le premier fleuve. Le premier fleuve, c'est quoi? C'est quoi votre trésor? Votre trésor, c'est ce qui est important pour vous. Le vrai trésor de votre vie. C'est quoi? En fait, c'est votre destinée. Le premier fleuve vous conduit directement à faire les choses que vous aimez le plus. Autrement dit, vous pouvez faire un travail où vous subissez le travail. C'est-à-dire, vous partez travailler parce que vous avez juste besoin d'argent pour vous nourrir. Cet argent que vous avez n'est pas encore un fleuve. Vous me suivez? Le fleuve de votre vie, votre premier fleuve, ce n'est pas le salaire qu'on vous donne par mois. C'est lorsque vous serez en train de faire ce pourquoi Dieu vous a appelé. Et que cela va vous donner de la satisfaction intérieure. Il dit le fleuve entourait le cœur. Entourait le pays du trésor. Amen. Regardez ça. Vous savez, je ne cherche pas l'argent. J'ai un fardeau. C'est ramener le cœur des hommes à Dieu. Donc quand même je n'avais rien, même actuellement je ne suis pas riche financièrement, j'ai la richesse du Seigneur, j'ai commencé à faire ce que Dieu a mis dans mon cœur, amener les âmes à lui. Dieu a pourvu par là à mon premier fleuve. Vous me suivez? C'est là qu'il a commencé à s'occuper de moi, à me nourrir. J'ai fait ce qui avait pour moi de la valeur, le salut des hommes. Et c'est ce que Dieu a pris pour me nourrir. Votre premier fleuve va venir lorsque vous allez faire ce pourquoi vous vous sentez appelé à faire, ce que vous faites avec plaisir, ce qui est pour vous un trésor. Vous me comprenez? Si par exemple vous êtes appelé à aider les démunis, votre premier fleuve, le fleuve de Pichon pour vous, va venir de ce que je vous ai expliqué. Vous allez commencer très faiblement. Ça veut dire que c'est une activité que vous allez ouvrir. Mais cette activité-là, vous la faites pas parce qu'on vous y oblige, mais parce que vous l'aimez profondément. Amen. Vous faites ça avec votre cœur. Elle va vous donner vos premières entrées. C'est là que Dieu va commencer à pouvoir vos premiers besoins. Il va vous stabiliser. Il va vous permettre de ne pas vous détourner. Alléluia. Alléluia. Dimanche prochain, j'espère, mais qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi ton trésor? Amen. Mon trésor, c'est le Seigneur. Le trésor que le Seigneur m'a donné encore, c'est le salut des âmes. Je n'ai pas été épanoui quand je travaillais dans le cabinet des sottises. Le cabinet des sottises où je travaillais n'était pas pour moi un fleuve. C'était un marigot. Amen. Parce qu'il ne va pas en augmentant. Parce que ma vie ne peut pas dépendre de cela. Vous comprenez, non? Je savais même qu'en travaillant, c'était juste un tremplin. Mais ma vie n'est pas liée à cela. Mon premier fleuve, ça a commencé lorsque j'ai commencé à travailler dans ma vision. Dans la vision que tu m'avais donnée. Commencer à gagner les âmes à lui, à amener les gens au Seigneur. Là, je le faisais. Je n'ai pas besoin qu'on me paye pour le faire. Naturellement, même dans la rue, je suis en train de prêcher. J'arrive de monde dans un cas, j'évangélise tout le monde qui est dans le cas. Vous voyez, non? C'est dans cette œuvre-là que Dieu a commencé à arroser ma vie. Il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves vont couler de lui. J'ai dit, il y en a quatre qui vont couler. Des fleuves. Comme j'ai cru en lui et que j'obéis à sa parole, j'ai eu le premier fleuve qui fait que je suis heureux dans ce que je fais. Les autres choses que vous faites sans être heureux, là, ce n'est pas un fleuve. Même si ça vous donne de l'argent. Amen. C'est un marigot. Arrivez-vous bien là-dedans, mais ça peut stagner, l'eau va se gâter, mais c'est pas bon. Amen. Ok. Un fleuve, c'est de l'eau qui coule. C'est quelque chose que vous faites qui a de l'avenir, qui a une vision. Et tout en faisant, le fleuve a cette particularité. Il apporte la vie partout où il passe. Amen. Donc, votre premier fleuve, tous les fleuves ont cette particularité, ils donnent la vie aux autres. Ça ne peut jamais être quelque chose que Dieu vous donne qui est pour vous seul. Mais ce que Dieu va vous manifester par le premier fleuve, c'est une activité que vous allez mener qui est pour vous-même bénédiction et qui va commencer à bénir les autres. Et ce premier fleuve-là ne commence que lorsque vous commencez à agir dans le sens de votre fardeau, dans le sens de votre vision. Vous vous sentez épanoui quand vous partez au travail. Amen. Alléluia. Donc dimanche prochain, j'entrerai plus en détail là-dessus. Je vais vous parler de comment le fleuve croît. Comment il arrive, comment votre vie peut être une source de bénédiction pour les autres quand vous allez commencer à ouvrir votre premier fleuve. Amen. Et dès maintenant, ceux qui n'ont pas encore commencé à ouvrir leur fleuve,
vont commencer à le faire. Les fleuves de vie doivent couler au travers d'eux. Après, vous allez ouvrir votre deuxième fleuve, le troisième et le quatrième. En ce moment-là, vous serez épanouis. Soyez bénis par le Seigneur ensemble. On va se tenir debout, on va prier l'Éternel pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui.
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.